Chers frères et sœurs et chers amis, nous sommes à l'étude numéro 3. Cette étude est en quatre petites parties. La première partie concerne la Sainte Cène qui est le repas du Seigneur. Deuxièmement, s'épanouir dans l'humilité. Troisièmement, la joie du chrétien. Quatrièmement, lutter pour la fidélité. Nous commençons par la première partie, la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Chers amis, l'expérience m'a enseigné la toute-puissante vertu de ce merveilleux et divin sacrement pour fortifier les cœurs au bien, les exempter du mal, les consoler et en un mot les diviniser en ce monde, pourvu qu'ils soient fréquentés avec la foi, la pureté et la dévotion convenable. Tout baptisé qui se laisse conduire par l'Esprit Saint grandit dans le désir de la perfection. Les moyens de l'atteindre varient selon les divers états de vie. La route n'est pas exactement la même pour ceux qui ont offert leur vie pour soigner les malades, ou pour ceux qui sont dans un bureau ou encore à l'usine. Dans tous les cas, il s'agit de suivre le Christ, d'accueillir son salut, de demeurer en lui pour vivre de son amour. C'est pourquoi la Sainte Cène du Seigneur ne peut être que le soleil de toute vie chrétienne. Oui, le soleil qui illumine et la rend féconde. Avant la fête de Pâques, Jésus-Christ, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Il n'est pas possible de comprendre le repas du Seigneur sans approfondir le sens du Jeudi Saint. Avec ses apôtres, et pour la dernière fois, Jésus-Christ célèbre la Pâque. C'est un repas rituel, riche de signification. Ne rappelle-t-il pas au peuple d'Israël la puissance de Yahvé qui l'a fait sortir d'Égypte et l'a libéré de l'esclavage? N'est-il pas la célébration du passage de la mer Rouge qui a ouvert la route vers la terre promise? En cette dernière Pâque, à la veille du calvaire, Jésus-Christ mange l'agneau pascal avec les siens. C'est le mémorial dans l'action de grâce du sang de l'agneau que les Juifs ont répandu autrefois sur les linteaux de leurs portes pour que l'ange passe sans frapper leur premier-né. Ce sang qui sauve et la libération de l'ancienne alliance scellée entre Yahvé et son peuple, et que de génération en génération, les différents sacrifices offerts au temple de Jérusalem ont consolidé. Mais au soir du Jeudi Saint, ce repas pascal s'enrichit d'une signification absolument nouvelle. Il annonce une autre immolation, une autre Pâque, une autre alliance, celle de la croix du calvaire, celle de la mort et de la résurrection du Sauveur. L'institution de la Sainte Cène est le premier acte de la passion de Jésus-Christ. Mystérieusement et sacramentalement, elle est anticipation du sacrifice rédempteur. Et prenant du pain, souvenez-vous, il rendit grâce. Il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. » Cette première sainte cène, le repas du Seigneur, traduit l'abandon du Christ à son Père. Au moment où l'heure est venue de rejoindre le Père, il se donne à lui mystérieusement, réalisant déjà le « oui » qu'il donnera à sa volonté sainte au jardin de Gethsémané, sur le chemin du calvaire et surtout sur la croix. Anticipation non sanglante du sacrifice qui lui donnera de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang précieux pour vous, pour nous. Célébré au moment même où Jésus-Christ va quitter les siens, cette première sainte cène signifie qu'il ne les abandonne pas, et par ce repas, il les rassemble dans son amour. Et c'est pourquoi le traître a été démasqué et Judas a quitté le groupe. Il les rassemble dans l'unité en se faisant leur nourriture sous les apparences du pain et du vin. Ne vient-il pas aussi de leur rappeler son unique commandement. Voici quel est mon commandement. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, non seulement en parole, mais en acte, car il a lavé les pieds de ses disciples. Le premier jeudi saint nous conduit au vrai sens du repas du Seigneur qui représente le sacrifice où le Christ s'offre pour nous à son Père. Faites ceci en mémoire de mon sacrifice pour vous. Il est très clair que par le sacrifice de la croix, tout a été consommé et qu'il n'est nul besoin d'un nouveau sacrifice. Toutefois, il n'est pas moins vrai que la Sainte Cène est un sacrifice. Il n'y a pas en effet deux sacrifices, celui de la croix et celui de l'autel, mais un seul, parce que d'un côté comme de l'autre, c'est une même chose qui est offerte par un même sacrificateur, oui, à une même fin et au même Père, car c'est le même Christ qui, de part et d'autre, offre et est offert. C'est le même Père céleste à qui est faite l'offrande, et cela pour la seule rémission des péchés et sanctification du nom de Dieu. Le Christ rédempteur s'est donc offert et s'offre pour toujours au Père de sacrifice. Oui, ce sacrifice, chers amis, est absolument unique. Il est perpétuel et très constant. Et quand le Christ dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi », il se donne à eux comme la victime sainte pour qu'ils puissent l'offrir au Père pour le salut du monde. Même si le pasteur seul peut refaire ce que a fait le Seigneur et consacrer le pain et le vin au corps et au sang du Christ, c'est toute l'assemblée des chrétiens qui est invitée à réaliser cette oblation sainte. Et ceci en mémoire de Jésus-Christ, qui a offert sa vie à la croix pour nos péchés et ainsi nous offrir le salut. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons-le en mémoire de la passion bienheureuse de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. À la suite du Christ, nous devons nous unir à son offrande et faire au Père l'offrande de nous-mêmes, de tout ce que nous sommes, de tout ce qui fait notre vie. Ainsi, toute notre vie devient à la gloire de Dieu, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Oui, que tout honneur et toute gloire t'est offerte pour les siècles des siècles. Et tout au long de sa prédication, en parcourant la Galilée, la Samarie et la Judée, le Christ a préparé ses disciples au don de soi-même. Qui, en mémoire de moi, mange ma chair et boit mon sang, eh bien celui-là a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parole intolérable pour certains disciples qui, malheureusement, l'ont parfois quitté. Oui, chers amis, nous avons à reconnaître sa présence dans la foi. Nous avons à accueillir son salut. Actualisation du sacrifice du Christ réalisé dans le temps sur le calvaire. Mais ce salut ne devient nôtre que si nous le recevons dans la foi, que si nous l'accueillons comme une réalité qui transforme notre existence et nous arrache au péché. La Sainte Cène, le repas du Seigneur, nous ouvre à Dieu et nous ouvre à nos frères et sœurs. Elle doit réaliser en nous ce que dit l'apôtre Jean. Le Christ a livré sa vie pour nos frères et sœurs, et en recevant le Christ mort et ressuscité, nous devons devenir des hommes nouveaux, ressuscités avec lui, c'est-à-dire conduits par son esprit d'amour, en célébrant le mystère du calvaire, nous sommes entraînés par le Christ à le suivre et à faire nôtre l'attitude qui a été la sienne, celle du don au Père pour le salut du monde. Oui, chaque fois que nous vivons la Sainte Cène, nous accueillons le Christ, pain rompu pour un monde nouveau. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Si la Sainte Cène soude dans l'amour et l'unité ceux qui participent au même corps, c'est pour les engager tous, sans exception, à construire un monde nouveau. Oui, un monde où les hommes vivent des rapports filiaux avec le Père et en conséquence des rapports fraternels entre eux. Donc la Sainte Cène est vraiment la source de vie si elle transforme notre existence quotidienne et donne d'être une offrande au Père par le Christ, et dans l'Esprit Saint, une offrande réalisée dans la fidélité au commandement de la charité. Chers amis, deuxièmement, nous devons apprendre à nous épanouir dans l'humilité. Il faut bien toujours tenir ferme en Jésus-Christ notre Seigneur, la douceur envers le prochain et la très aimable humilité envers Dieu. Et j'espère qu'il en sera ainsi, car ce grand Dieu qui vous a pris par la main pour vous tirer à soi ne vous abandonnera point qu'il ne vous ait logé en son tabernacle éternel, selon le psaume 26, verset 5. Il faut arracher tout à fait le soin des préséances, puisque même on ne possède jamais tant l'honneur qu'en le méprisant. Chers amis, accueillons l'invitation du Seigneur à nous mettre à son école pour apprendre de lui qu'il est doux et humble de cœur. En étant appelés à la sanctification, nous sommes invités à nous épanouir et à le faire dans l'humilité. Cette vertu d'humilité est la base et le fondement de la vie spirituelle, car elle touche et attire le cœur de Dieu. L'humilité nous est tellement nécessaire que sans elle, nous ne pouvons être agréables à Dieu, ni avoir aucune autre vertu, pas même la charité qui perfectionne tout, car elle est si conjointe à l'humilité que ces deux vertus ne peuvent être séparées. Elles ont une si grande sympathie ensemble que l'une ne va point sans l'autre. Si vous me dites que vous avez la charité et que vous n'avez pas l'humilité, je vous répondrai que vous mentez. Et si vous assurez que vous avez l'humilité et que vous n'avez pas la charité, vous ne dites rien qui vaille. Avant d'être une manière d'agir et de nous comporter à l'égard des autres. L'humilité est une manière d'être, une manière d'être devant Dieu. Oui, une façon de nous situer dans la vérité. C'est pour cela qu'elle est la base et le fondement de toute perfection. Que nous le voulons ou pas, nous sommes des créatures de Dieu marquées par le péché. L'humilité du chrétien s'inscrit dans sa condition de créature. Le mot lui-même nous renvoie à l'humus. Et humble, celui qui est bas, qui est près du sol. En filigrane se profile le récit de la création au livre de la Genèse, où Dieu se fait l'artisan de la vie à partir de l'humus, oui, à partir de la glaise du sol. Être humble, c'est d'abord prendre conscience de notre condition de créature. C'est accepter cette condition avec sa conséquence qui est de reconnaître et proclamer la grandeur de Dieu. Abaissez-vous devant Dieu, ô mon âme, et sache que le Seigneur est ton Dieu. C'est lui qui t'a fait, et tu ne t'es pas fait toi-même. Ô Dieu, je sais que je suis l'ouvrage de vos mains. Et en raison du péché, il n'est pas facile d'accepter cette condition de créature, car notre orgueil comporte en germe le rejet de Dieu. Il est la prétention à une autosuffisance. Il est le refus d'être relié à la source de l'être. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Tous, nous sommes tentés de nous gonfler d'orgueil, et nous méritons d'être interpellés par l'apôtre Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? S'il est vrai que notre condition de pécheur exige de nous l'humilité, elle ne nous porte pas directement à l'humiliation. Nous sommes des pécheurs rachetés. Le Christ s'est abaissé pour nous relever. Il est mort sur la croix afin de nous redonner cette vie divine que nous avions rejetée. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dans l'humilité, nous devons mieux percevoir le plan d'amour de Dieu sur le monde et accueillir le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Un tel accueil ne va pas sans une certaine défiance à l'égard de nous-mêmes. Libérés du péché, nous le sommes, et pourtant, nous en subissons toujours les conséquences et faisons l'expérience d'osciller entre le bien et le mal. La défiance que vous avez de vous-même est bonne tant qu'elle servira de fondement à la confiance que vous devez avoir en Dieu. L'humilité nous rapproche de Dieu. Elle nous ouvre à l'immensité de ses bienfaits. Petitesse et grandeur de l'homme pour la plus grande gloire de Dieu. Chers amis, soyons ce que nous sommes et soyons le bien pour faire honneur au maître ouvrier duquel nous sommes les besoins. Oui, nous sommes ses ouvriers. Et le réalisme comporte une exigence de vérité, spécialement lorsque on parle de l'humilité. N'avons-nous pas tous tendance à porter le masque et à donner le change sous prétexte d'affirmer notre personnalité? Pour être vraiment humble, il faut être vrai, ne pas chercher à leurrer et ne pas chercher à tromper. La vaine gloire nous guette. Nous appelons vaine la gloire qu'on se donne ou pour ce qui n'est pas en nous ou pour ce qui est en nous mais non pas à nous ou pour ce qui est en nous et en nous, mais qui ne mérite pas qu'on s'en glorifie. La noblesse de la race, la faveur des grands, l'honneur populaire, ce sont choses qui ne sont pas en nous, mais en nos prédécesseurs ou en l'estime d'autrui. Il y a en On peut dire « il y en a qui se rendent très fiers, oh oui, même hautains. » Et pour être sûr, ou si vous voulez, pas seulement sûr, mais être sûr d'être sur un bon cheval, pour avoir un panache en leur chapeau, pour être habillés somptueusement, mais qui ne voient cette folie, oui, qui peut l'avoir, nous devrions l'avoir, car s'il y a de la gloire pour cela, elle est simplement pour le cheval. Elle est peut-être aussi pour l'oiseau et pour le tailleur. Et de poursuivre avec sa fine psychologie, les autres se prisent et regardent pour des moustaches relevées, pour une barbe bien peignée, pour des cheveux crêpés, pour des mains douillettes, pour savoir danser, jouer, chanter. Mais ne sont-ils pas lâches de courage, de vouloir enchérir, augmenter leur valeur et donner du surcroît à leur réputation pour des choses si frivoles et folâtres. Les autres, pour un peu de science, veulent être honorés et respectés du monde, comme si chacun devait aller à l'école chez eux et les tenir pour maîtres. Et c'est pourquoi on les appelle pédants. Tout cela est extrêmement vain, sot et impertinent. Et la gloire qu'on prend de si faibles sujets s'appelle vaine, sotte et frivole. L'important n'est pas de rester simple, de ne rien exagérer, de situer chaque chose à sa vraie place. Les honneurs, les rangs, les dignités sont comme le safran qui se porte mieux et vient plus abondamment d'être foulé aux pieds. Ce n'est pas forcément un honneur, d'être beau. Quand on s'en regarde, eh bien la beauté, pour avoir bonne grâce, doit être négligée. La science nous déshonore quand elle nous enfle et qu'elle dégénère en pédanterie. Si nous sommes pointilleux pour les rangs, pour les séances, les pré-séances, pour les titres, outre que nous exposons nos qualités à l'examen, à l'enquête et à la contradiction, nous les rendons vils et abjects, car l'honneur qui est beau étant reçu en don devient vilain quand il est exigé, quand il est recherché et même demandé. Ne s'exerce-t-elle pas chaque jour cette vertu d'humilité? Si nous accueillons la réalité avec tout ce qu'elle peut comporter d'humiliation, que si étant piqué et mordu par les médisants et les ennemis, nous devenons fiers, enflés et dépités, c'est signe que nos humilités et douceurs ne sont pas véritables, ne sont pas franches, mais carrément artificieuses, seulement en quelque sorte apparentes, pas plus. Il y a une maxime qui nous dit « Où est l'humilité, là est la charité ». Les relations humaines qui constituent la trame de notre existence ne sont pas à l'abri des déformations de notre orgueil et de notre égoïsme. Elles sont le vaste champ où doit s'exercer l'humilité. N'avons-nous pas si facilement deux poids et deux mesures? Nous voulons qu'on regarde en nous ce qui est excellent, les qualités, les offices et charges auxquelles nous sommes élevés et que l'on nous estime pour cela, quoique vraiment nous n'en soyons pas plus à estimer ni plus grand devant Dieu, et nous voulons au contraire qu'on ignore notre petitesse et qu'on ne regarde jamais notre misère, nos défauts et nos imperfections. Tout être humain a la même valeur devant Dieu, heureusement, et a été racheté par le même sang du Christ. Être humble en face des autres, c'est respecter en eux l'œuvre de Dieu. Ce qui exige de dépasser les apparences, de ne pas nous arrêter à l'extérieur, un tel nous en impose, tel autre nous apparaît moins que rien, de ne pas nous laisser séduire par ce qui n'est qu'accessoire, par la richesse ou la position sociale. Sous l'aiguillon de l'orgueil, nous ressentons tous la tentation de nous croire meilleurs et supérieurs. C'est chaque jour que nous devons lutter pour vivre dans l'humilité, sans oublier que Dieu résiste aux superbes, à ceux qui donnent aux humbles sa grâce. Je répète, c'est chaque jour que nous devons lutter pour vivre dans l'humilité, sans oublier que Dieu résiste aux superbes, à ceux qui sont vains. Mais Dieu donne aux humbles sa merveilleuse grâce. Alléluia. Troisièmement, nous avons la joie du chrétien. Tenez votre cœur bien large devant Dieu. Allons toujours gaiement en sa présence. Il nous aime, il nous chérit, il est tout nôtre, ce doux Jésus. Soyons tous siens seulement, aimons-le et chérissons-le. Je ne sais comment je suis fait, encore que je me sente misérable. Je ne m'en trouble point. Et quelquefois, j'en suis joyeux, pensant que je suis une véritable bonne besogne pour la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, chers amis, il faut regarder ce que Dieu veut, et le reconnaissant, il faut s'essayer carrément. Oui, de s'essayer de le faire gaiement, ou au moins courageusement. Oui, c'est le blanc de la perfection auquel nous devons tous viser, et qui plus s'en approche, c'est celui qui emporte le prix. En un langage imagé, nous pouvons définir clairement les objectifs de la vie chrétienne. La recherche de la volonté divine et son accomplissement dans la joie et le courage, car un saint triste, croyez-moi, est en quelque sorte un triste saint, ne croyez-vous pas? N'oublions jamais que Dieu est le Dieu de la joie. Nous sommes des êtres de chair, avec notre sensibilité et notre plus ou moins grande résistance nerveuse. Tous, nous avons une histoire personnelle qui n'appartient qu'à nous et qui comporte des événements qui nous, on peut dire, qui nous ont atteint en profondeur. Donc, force est d'admettre qu'il y a des êtres naturellement portés à l'optimisme, et oui, et d'autres qui se sentent constamment entraînés vers le gouffre de la dépression. Les premiers voient toujours le bon côté des choses et la vie leur apparaît en rose. Les autres ont tendance à broyer du noir et luttent sans cesse pour trouver leur équilibre et leur épanouissement. Sans même parler des malades atteints dans leur corps, combien de personnes souffrent parce que leur psychisme est tout simplement fragile? Les conditions de vie de notre monde moderne ne leur facilitent pas la tâche avec ce rythme accéléré, avec cet envahissement de la technique qui éloigne de la nature. Nous n'avons pas le choix de nos croix, et chacun doit sanctifier la sienne. Elle est souvent bien lourde pour ceux qui sont portés à la déprime. À ce niveau de sensibilité et d'affectivité, l'optimisme et le pessimisme sont d'ordre naturel, et donc ils ont absolument rien de chrétien. Ce qui ne veut pas dire que la foi n'ait pas un rôle à jouer. Elle est la source de réconfort et de courage pour ceux et celles qui se situent leurs difficultés qui sont personnelles dans la perspective de Dieu et de sa providence. Elle peut même consolider le système de défense de ceux qui luttent contre leurs traits névrotiques et qui se battent jour après jour pour ne pas perdre pied. Leur souffrance est respectable et face à cette souffrance s'ouvre le large champ de la charité fraternelle. Savoir écouter, permettre à celui qui déprime d'être écouté et par ce biais de connaître un soulagement, c'est important. L'accompagner sans le juger, sans lui jeter à la figure des recettes toutes faites qui sont sans prise sur ses tourments, et savoir être avec en imitant le Christ qui a voulu être présent à notre misère. Oui, Dieu avec nous. La joie que nous propose le Christ va bien au-delà de notre sensibilité et de notre affectivité. Elle est existentielle, puisqu'elle donne sens à notre existence. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Le matérialisme a envahi notre monde moderne et pour des milliards d'êtres humains, la mort est malheureusement la fin de tout. Ils sont victimes de la perte du sens de Dieu, emportés par le vertige qui agite notre temps en recherche de plus de mieux-être, de plus de confort et de plus de plaisir. Dans ce monde où les riches veulent toujours davantage et où les pauvres ont toujours moins, l'homme devient de plus en plus un loup pour l'homme. Pas étonnant que ce monde soit le théâtre de tant d'écœurements et de tant de suicides. Nous sommes l'œuvre de Dieu, d'un Dieu qui veut sans cesse nous communiquer son amour. Là se trouve la raison fondamentale de notre joie. Nous disons que Dieu, ayant eu une éternelle et très parfaite connaissance de l'art de faire le monde pour sa gloire, il disposa avant toute chose en son entendement toutes les pièces principales de l'univers qui pouvaient lui rendre de l'honneur, c'est-à-dire la nature angélique et la nature humaine. Et puis, en cette même éternité, il a pourvu et fait état de tous les moyens requis aux hommes et aux anges pour parvenir à la fin à laquelle il les avait destinés. Étant des créatures de Dieu, nous sommes habités par une espérance dans son amour de Père. Il nous a manifesté sa miséricorde. Il a établi que son Fils rachèterait, oui, qu'il rachèterait les hommes, non seulement par une de ses actions amoureuses qui eût été plus que très suffisante à racheter 1 000 millions de mondes, mais encore par toutes les innombrables actions d'amour et passions douloureuses qu'il ferait et souffrirait jusqu'à la mort et la mort de la croix, à laquelle il destina son Fils bien-aimé, voulant qu'ainsi il se rendît compagnon de notre misère, de nos misères, pour nous rendre par après compagnon de sa gloire. Même si nous faisons l'expérience quotidienne du péché, Dieu nous propose d'être ses amis. Chers amis, tenez votre cœur bien large devant Dieu. Allons toujours gaiement en sa présence. Même si nous devons constamment lutter contre notre sensualité qui nous porte à l'égoïsme, nous savons que nous sommes aimés de Dieu et qu'il nous veut pour ses enfants. Et c'est cela qui fonde notre joie. Quel bonheur d'être tout à Dieu, car il aime les siens, il les protège, il les conduit, il les met au port de la désirable éternité. Demeurez donc ainsi, et ne permettez jamais à votre âme qu'elle s'attriste, ni vive en amertume d'esprit ou en scrupule, puisque celui qui l'a aimé et qui est mort pour la faire vivre est si bon, si doux et si aimable. Il est vrai que nous restons des êtres pour la mort, mais nous sommes déjà ressuscités avec le Christ qui nous a préparé une place auprès du Père. Telle est notre espérance qui illumine notre route et qui nous rend forts en face des épreuves qui jalonnent notre existence. Voyez-vous, si la joie du chrétien s'enracine dans les dons multiples de Dieu, elle est aussi une conquête permanente contre l'égoïsme, avec la force de la grâce. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recouvrez et surtout recourez, chers amis, à la prière pénétrée. Il ne faut pas avoir peur de prier d'une façon convaincue de tout votre cœur et pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors croyez-moi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et l'apôtre Paul ajoute, « Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. La joie du chrétien n'a rien de passif. Le Seigneur nous mobilise. Il veut faire de nous des semeurs de joie. Que disait-il à ses apôtres à la veille de sa mort? Je vous dis cela pour ma joie, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Il y a un lien étroit, chers amis, entre la joie et la charité fraternelle. Elles sont inséparables. On peut même dire que la joie jaillit du don de soi. Conservez un esprit de sainte joie qui modestement répandu sur vos actions et paroles donne de la consolation aux gens de bien qui vous verront afin qu'ils en glorifient Dieu, ce qui est notre unique prétention. Il suffit de reprendre les béatitudes pour s'en convaincre. Nous sommes disciples d'un Christ crucifié qui a donné sa vie pour le monde et nous entraîne à sa suite pour nous donner aux autres, ce qui ne peut se faire sans mourir à nous-mêmes, sans lutter constamment contre l'égoïsme. L'esprit d'amour du Père et du Fils transforme notre vie et nous donne la véritable joie, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Avant de terminer, donc nous avons la quatrième partie et nous ne devons pas avoir peur de lutter pour la fidélité. Vivre en vérité et non pas en mensonge, c'est faire une vie totalement conforme, à la fois nue et simple, selon les opérations de la grâce, et non selon les opérations de la nature. Parce que notre imaginaire, nos sens, notre sentiment, notre goût, nos consolations, nos discours peuvent être trompés ou errants. Voyez-vous, sur la route de la sainteté, les conditions diffèrent pour les uns et pour les autres. Mais il s'agit toujours de suivre le Christ, celui qui est le chemin vers le Père. Notre condition de pécheur nous expose à dévier à droite et à gauche. Nous avons sans cesse à lutter pour vivre dans la fidélité. Dans la parabole des talents, le Seigneur distribue des dons différents, mais à chacun de ses serviteurs, il demande de les mettre en valeur et de les faire fructifier. Et tous ceux qui le font généreusement s'entendent dire « C'est bien, serviteur bon et fidèle. En peu de choses, tu as été fidèle. » Sur beaucoup, je t'établirai. Entre donc dans la joie de ton Seigneur. Au sens littéral du mot, est fidèle celui qui vit dans la foi, celui qui se laisse conduire par la foi et qui en réalise les exigences. Du mot latin « fides » est venu le mot français « fidélité », ce qui nous aide à percevoir quel est l'exact contenu de la fidélité. C'est de vivre tout ce que demande la foi. Il ne s'agit pas simplement de donner un consentement intellectuel à des vérités que Dieu nous a révélées. Il s'agit vraiment de tout miser sur le Christ et vraiment fidèle, oui, et vraiment fidèle celui, croyez-moi, qui s'attache à lui envers et contre tout, en toutes circonstances, et qui agit en conformité avec son évangile. Oui, aussi peut-on parler indistinctement des chrétiens ou des fidèles pour désigner ceux qui se mettent à l'école de Jésus-Christ. La fidélité du chrétien s'enracine dans la grâce de Dieu. C'est son amour prévenant qui renouvelle, oui, qui nous renouvelle absolument et toujours par ses inspirations. Oui, l'Esprit Saint nous conduit pour que s'épanouisse notre vocation à être tout simplement des enfants du Père dans la confiance et évidemment dans la joie. Le juste vit de la foi. La grâce de Dieu vient au secours de notre misère. Elle nous libère de l'emprise du péché. Et par le sacrement de la pénitence, elle nous relance sur la route de la fidélité. Tel le père de l'enfant prodigue, Dieu nous attend et il nous offre ses bienfaits malgré nos faiblesses, malgré nos infidélités. Il nous fait carrément la fête. Voyez-vous, chers amis, notre langage humain est bien déficient pour exprimer la grandeur de Dieu. Dieu ne peut agir en fonction de vérités qu'il aurait reçues d'ailleurs, car il est lui-même la vérité. En ce sens-là, on ne peut parler de fidélité en lui. Il est une seule et unique perfection absolument infinie. C'est en nous seulement que se trouve la diversité. Nous avons une grande diversité de facultés et habitudes qui produisent aussi une grande variété d'actions, et ces actions une multitude non pareille d'ouvrages. Mais il n'en est pas de même en Dieu, car il n'y a en lui qu'une très simple, infinie perfection, et en cette perfection qu'un seul et très pur acte. Il faut pourtant parler de la fidélité de Dieu, le modèle de toute fidélité. Il n'y a en lui ni variation, ni faiblesse, pas la moindre inconstance. Il est bon et fidèle dans ses promesses. Et rien, pas même notre ingratitude et notre méchanceté, ne peut altérer sa fidélité. Toute l'histoire du salut en est l'illustration. Dieu n'est jamais revenu sur son dessein créateur, ni sur son dessein sauveur. Il y a eu le déluge, il y a eu Sodome et Gomorre, toujours, Dieu est resté fidèle. Et l'alliance ancienne, pourtant si souvent bafouée par le peuple de Dieu, a été remplacée par une nouvelle alliance, celle qui a été scellée par le sang de son Fils mort sur le calvaire pour nous. Avec insistance, avec constance, Dieu veut que le peuple qu'il s'est choisi soit vraiment son peuple. Il l'arrache à toutes ses infidélités, le punit parfois durement, c'est nécessaire. Mais c'est toujours pour qu'il revienne à lui, pour qu'il restaure l'alliance qu'il lui a proposée et continue à lui proposer depuis le premier péché. Oui, Dieu est fidèle et nous appelle sans cesse à revenir à lui et à lui être fidèle. Voyez-vous, chers amis, il y a en nous une profonde inconstance. Notre sensibilité nous joue en quelque sorte des mauvais tours. Ah oui, nous sommes attirés par ce qui plaît à nos sens. Et quand bien même nous savons ce que nous avons à faire, eh bien nous n'avons pas toujours le courage de le réaliser. Nous sommes donc des faibles. Et je le prends pour moi-même. Oui, nous avons nos envies et nos répugnances. Et nous changeons souvent d'humeur et de sentiment. Ce qui porte préjudice à notre vie spirituelle, à notre progression vers la sainteté. Voyez-vous, notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les saintes écritures? Le cœur des disciples d'Emmaüs a vibré à l'écoute du Sauveur ressuscité. Dans la prière, il nous est donné quelquefois de connaître cette même chaleur de la présence de Dieu. Mais plus souvent encore, il nous arrive de n'éprouver aucune émotion et de devoir cheminer dans l'aridité et la sécheresse. Il nous est difficile d'accepter une telle situation, d'autant plus difficile que nous avons tendance à jauger la qualité de notre prière au sentiment que nous y éprouvons. Un jour, nous avons envie de prier, mais le lendemain, tout nous rebute et nous nous sentons incapables de la moindre prière. Nous nous laissons conduire par notre sensibilité, alors que nous devrions prier dans la foi et donc dans la fidélité. Ne nous laissons pas gagner par le découragement, encore que nous changions, mais Dieu, croyez-moi, ne change jamais. Et il demeure toujours aussi doux et miséricordieux quand nous sommes faibles et imparfaits que quand nous sommes forts et persévérants. Ne rejoignons pas les rangs de ceux qui renoncent carrément à la prière sous prétexte d'authenticité et de sincérité. Nous ne prions pas en fonction de ce que nous éprouvons, mais bien pour rendre gloire à Dieu et lui exprimer notre amour. Aujourd'hui, que vous avez de la consolation en l'oraison, vous êtes encouragé et bien résolu à servir Dieu. Mais demain, que vous serez en sécheresse, vous n'aurez point de cœur pour le service de Dieu. Or, dites-moi un peu, si vous vous gouverniez par la raison, ne verriez-vous pas que s'il était bon de servir Dieu hier, il est encore très bon de le servir aujourd'hui, et il sera très bon de le servir demain, car c'est toujours le même Dieu aussi digne d'être aimé quand vous êtes en sécheresse que quand vous êtes en consolation. Une chose est sûre, le progrès dans la vie spirituelle requiert un constant effort pour dépasser nos variations d'humeur, pour ne pas nous laisser conduire par nos sentiments, mais par la foi. Un autre grand obstacle à notre fidélité est la tentation de nous évader dans l'imaginaire. Il n'y a pas de sainteté sans adhésion à la volonté de Dieu qui nous est signifiée aussi dans les événements qui nous adviennent. Nous avons tous à sanctifier des contrariétés qui nous arrivent dans la vie courante. Et pourtant, nous croyons échapper à cette réalité par le rêve et l'imagination, en nourrissant des désirs totalement vains. Je n'approuve nullement qu'une personne attachée à quelque devoir ou occupation s'amuse à désirer une autre sorte de vie que celle qui est convenable à son devoir, ni des exercices incompatibles à sa condition présente. Si je désire la solitude des chartreux, je perds mon temps, et ce désir tient la place de celui que je dois avoir, de me bien employer à mon office présent. Trop souvent, chers amis, nous balançons entre le réel et l'imaginaire. Qu'il est aisé en rêve d'être un héros, de se donner totalement à une noble cause. C'est si facile parce que tout se passe dans un monde qui n'existe pas. La perfection chrétienne ne consiste pas à faire des prodiges, ni à subir le martyre en imagination. Elle réside plus simplement dans l'acceptation de la volonté de Dieu, de toute sa volonté, jusque dans les plus petites choses. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous sommes disciples d'un Christ crucifié, ce qui suppose d'avoir bien les pieds sur terre, de renoncer à vivre dans l'irréel pour mieux sanctifier la réalité présente, pour grandir dans la fidélité. Nous devons aussi remettre en question notre échelle des valeurs et redécouvrir l'essentiel. Ce n'est pas par la multiplicité de nos œuvres que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons. C'est l'intensité de la charité qui anime notre prière, qui en fait la valeur, et non pas la facilité avec laquelle nous prions, et non pas l'ampleur des consolations que nous y goûtons. C'est l'intensité d'amour de Dieu que nous mettons à faire les moindres choses qui ont fait la valeur. Oui, croyez-moi, c'est la charité qui donne le prix à nos œuvres. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous dire quelques paroles d'un très ancien cantique. Non, rien en ma personne n'est digne d'être aimé. Ce que Jésus-Christ me donne peut seul être estimé. Jésus-Christ est ma justice, il est ma gloire, il est mon appui, il m'aime, il m'est propice, et je puis tout en lui. Oui, malgré la tempête, Jésus-Christ, à qui j'appartiens, toujours sous sa houlette, gardera sa brebis. Dussé-je, pour mon maître, perdre tout ici-bas? À lui seul, je veux être, et je ne le quitte pas. Prions maintenant ensemble. Que nous sommes heureux, ô notre Père, de pouvoir ainsi chaque jour nous réunir autour de ta parole et écouter ensemble ta voix qui nous parle comme si toi-même tu paraissais au milieu de nous, pour nous instruire, nous fortifier, nous consoler, affermir nos cœurs en toi, que nous la recevions dans nos cœurs comme ce qu'elle est en réalité, la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Qu'elle soit notre secours constant dans ce saint combat de la foi auquel ton apôtre exhortait Timothée, afin que nous soyons sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans reproche, oui, malheureusement pas totalement, puisque comme nous, nous en sentons bien loin encore d'être sans reproche. Et si notre cœur nous condamne, ô toi Seigneur, qui es plus grand que notre cœur, ne nous condamneras-tu pas beaucoup plus? Nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné un sauveur et de ce que, en son saint nom, nous pouvons nous approcher de toi comme de notre Père. Au milieu de toutes nos défaillances, de toutes nos infirmités, nous nous réfugions au pied de sa croix. Préserve-nous de jamais mettre notre confiance dans l'instabilité des richesses, que nous la mettions en toi seul, Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Ne permets pas que les soucis, même ceux qui nous paraissent le plus légitimes, étouffent en nous ta sainte parole, mais que nous remettions en paix entre tes mains avec tous ceux qui nous appartiennent, et ceci au nom de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci de votre intérêt que vous portez à ces études. À bientôt à nouveau, mes très, très chers amis.